18h à 19h.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la radio Bruit de Couloir, au direct de la tram, 20 rue de Toul, sur Saint-Denis, et vous pouvez nous écouter sur les ondes 106.3 FM, ainsi que sur le Mixcloud, / Bruit de Couloir. Donc voilà, aujourd'hui nous allons faire un invité qui va se présenter au fil du temps des participants. Et là nous commençons... Avec les présentations. Donc moi je me prénomme Christophe D et je représente la trame ainsi que les GEM. Merci.
Moi je m'appelle Magali.
Bonjour vous.
Je m'appelle DJ Karim.
Bonjour vous.
Bonjour, je suis Sarah en stage à la trame.
Moi c'est Christophe L.
Avec une chemise incroyable.
Bonjour, donc Stéphane, et je viens de Lille où j'enseigne la philo.
Moi c'est Benjamin du GEM de Saint-Denis et de la Tram, et pour répondre à Magali, c'est Atman qu'on entend dans le générique, chantant une chanson enregistrée au GEM fut un temps.
Lucie de la Tram.
Florent.
Marina, la passion de la trame.
Jean du GEM B et de la trame. Et du local béni.
Et Jean, c'est ton retour aujourd'hui ? C'est le retour de Jean à la trame.
Oui, et c'est pour ça qu'il flotte.
Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps ? Ça fait longtemps, là. T'avais perdu le chemin ?
Mais c'est trop long.
Ben on est content de voir que tu as retrouvé l'itinéraire.
Manu. C'est Christophe C de la trame.
Moi c'est Nasser.
Chokri.
Je reprends Valérie, nouvellement embauchée à la trame. Je m'étais pourtant planquée derrière le pilier pour être tranquille. Mais j'ai le micro.
On peut pas planquer une voix derrière un pilier.
Non, t'as bien raison.
Eh bien, bonjour, moi je suis Christophe, et animateur à Bruit de Couloir, et ravi d'accueillir tout le monde pour cette émission. Est-ce que les dessinateurs se présentent également ?
Bonjour, c'est Madani.
Bonjour, je suis Frédéric et je suis plutôt pédagogue. Que animateur, mais je suis animateur de formation.
Tu es plutôt pédagogue et tu es plutôt rasé aussi, me semble-t-il.
Non, je suis tombé sous la tondeuse.
tu es tombé sous les balles de la tondeuse.
Bienvenue à tous. Ben aujourd'hui, l'idée c'était d'accueillir... Stéphane, qui nous rend visite, qui faisait un petit tour de... Enfin, il me semble qu'on s'était rencontrés il y a quelques temps et on s'était dit qu'on reprendrait le dialogue à l'issue d'une rencontre qui avait eu lieu au Mans en juin dernier. On avait rendu compte de cette... c'était une journée qui était organisée par le collectif Encore Heureux au Mans. Et on avait rendu compte de cette journée, je me rappelle, d'un dialogue qui reprenait tout ça entre Manu et Nasser. On avait fait une émission fin juin pour raconter un petit peu ce qui avait été discuté. Et ce qui a été discuté, c'était aussi, enfin, l'occasion de la rencontre, c'était une journée sur le thème de la gratification, la participation et le travail. Il me semble que c'était ça. Comment ? On va passer le micro.
le droit aussi pour les travailleurs dans des ESAT et autres structures de prise en charge, quoi.
Ouais, si. Tout à fait. Effectivement, pendant cette journée, donc on était invités, nous, la TRAM, à organiser ce débat avec Stéphane, le collectif Encore Heureux, et il y avait on se rappelait tout à l'heure, il y avait des membres, des travailleurs des ESAT, il y avait aussi des gens qui montaient une association, qui s'auto-organisaient pour monter une association d'insertion autour du travail au Mans, et donc on avait discuté avec eux.
Oui, Nasser. Oui, il y avait aussi les jeunes, là, dans la structure, ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, le...
Les GEM du Mans ?
Non,
pas le SAJ, pardon.
SAJ, ouais.
Ouais, le service d'accueil de jour de Stain.
De Stain, et puis il n'y avait pas seulement... C'était Stain seulement ?
Ouais.
Oui, ceux qui ont fait le satellite, tout ça, là. D'accord.
C'est ça.
Mais il y avait des jeunes du Mans aussi, hein.
Oui, de l'IM Pro, alors.
Un groupe de jeunes du Mans.
J'ai même parlé avec deux petits jeunes là-bas, qui étaient très très bien.
C'est ça.
Ok, bah merci pour le rappel. Ouais. Et du coup, on venait un peu aux nouvelles, Stéphane. Quoi de neuf depuis le mois de juin ?
Alors, quoi de neuf ? Les choses se poursuivent. Je continue effectivement à travailler autour du handicap et de ce qui lie le handicap au travail et au droit, avec en plus les archives de Toscaïès qui sortent, ça apporte de nouveaux éléments au moulin parce que c'est édité. Et il y a pas mal de réformes en ce moment qui tendent à montrer que ça bouge autour du handicap, de la manière dont le travail y joue, dont des aides peuvent être versées ou obtenues en fonction du travail qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et c'est loin d'être figé, et c'est loin d'être que des bonnes nouvelles ou que des mauvaises nouvelles. Le dernier exemple en date... c'est celui de la déconjugalisation alors c'est le problème pour les personnes handicapées qui vivent en couple. Les revenus des conjoints sont décomptés dans un revenu global qui cumule en fait ceux de la personne dite handicapée avec ceux de son conjoint, et si le conjoint gagne un peu trop d'argent, les allocations baissent. Alors, je viens de dire un peu trop d'argent parce qu'il faut aller vite quand on parle. Le plafond à partir duquel on perd de l'argent quand on touche de la AAH et qu'on est avec un conjoint, c'est 19 000 euros. Ça veut dire que, par an, ça veut dire que... ça veut dire qu'en fait, chaque personne du couple doit vivre avec 10 000 euros maximum. 10 000 euros maximum, ça fait 800 euros par mois, à peu près. C'est en dessous du seuil de pauvreté, tout à fait. Et pas mal en dessous du seuil de pauvreté, puisque le seuil de pauvreté, c'est 1 000 euros. Donc voilà, donc je continue à travailler là-dessus. Et d'ailleurs, on va continuer avec Encore Heureux. Et puis ici, tout de suite, d'ailleurs.
Ouais, l'idée, c'était de parler un petit peu des différentes formes de travail, de ce que ça implique dès lors qu'on vient questionner le champ de la santé. Ouais. Et je ne sais pas si quelqu'un veut raconter un petit peu, nous, où est-ce qu'on en est du travail à la TRAM. Est-ce que quelqu'un veut raconter un peu aux auditeurs et à Stéphane ce qu'on fabrique ici avec le travail ?
Paris, la TRAM. J'ai de l'entraide mutuelle de la plupart du temps. C'est que qu'on discute des problèmes des gens. Bon, surtout par les problèmes des revenus, même en atelier protégé, et aussi par l'allocation d'adultes handicapés.
Est-ce que tu veux préciser un petit peu ce que tu entends par tout ça, parce que c'est très varié, très vaste ce que tu viens de dire. Tu parles de l'allocation adulte handicapé auquel certaines personnes ont droit. Tu parles de l'ESAT, c'est des lieux de travail pour les personnes.
Oui, c'est vu par l'orientation d'adulte handicapé. Recherche un travail, ça c'est pas la COREP. Bon, c'est qu'il oriente la personne ou dans un atelier protégé milieu ordinaire ou vu par son handicap. Bon, c'est plus les autres, c'est surtout par les problèmes physiques, des mouvements pas trop précis. Et c'est pour ça, c'est la deuxième ou troisième catégorie.
Comment on peut rebondir ? Moi, j'ai l'impression que le travail à la trame, ça se situe dans tout ce champ-là, effectivement. Nous, on n'est pas dans un travail d'insertion et de travail à proprement parler à la trame, pour le rappeler aux auditeurs. Effectivement, on est un lieu qui propose un accueil, une orientation et de l'aide, de l'accompagnement pour les personnes qui rencontrent des difficultés administratives, sociales ou de santé. Et effectivement, au milieu de ça, on propose de gratifier, de prendre en considération ce qui est de l'entraide. Et donc, on permet aux personnes de participer à l'accueil, à l'orientation des participants de la trame.
C'est ça, quoi. Ouais. Il y a un but initial qui n'est pas la distribution de travail comme un chantier d'insertion pourrait l'être, mais plutôt la valorisation de l'entraide entre les personnes. Et la visibilisation aussi de cette entraide par le biais de contrats de travail et de paye effective, quoi. Mais pris dans tout ce que tu décrivais d'un accompagnement des personnes qui en passe par le fait que les personnes s'accompagnent aussi entre elles, quoi.
Est-ce que d'autres trameurs veulent raconter un petit peu ce que c'est le travail à la trame pour eux ? Fred, est-ce que ça a à voir avec...
Le travail à la trame.
Tu associes sur tout ça ?
Je suis toujours intervenu dans le time de la trame. Je passe la main.
Moi, je peux en parler, ou c'est juste de la gratification que vous avez mis en place. Oui, donc il y a X temps, les professionnels de la trame avaient essayé de trouver une solution que maintenant ça a été mis en place il y a presque 2 ans. Et pour les participants. Par les participants de la trame eux-mêmes, parce qu'ils ont trouvé que ça peut être aussi un travail estimable, un travail inconditionnel, comme on dit, ou des fois. Et parce que les trameurs, ils font de l'accueil, ils font des interventions à l'extérieur. Donc, pour essayer de que tout le monde soit tout à fait d'accord sur le geste de leur travail ou de leur temps. Donc les pros, ils ont été voir des structures à droite à gauche jusqu'à ce qu'ils ont trouvé une structure adéquate pour que les trameurs d'aujourd'hui soient rémunérés à peu près 50 euros par mois, qui veut dire à peu 10 euros l'heure, pour justement éviter que leurs ressources soient diminuées ou carrément stoppées.
Le truc, c'est que le travail, c'est qu'un mot, et que en fait, il y a plusieurs facettes. Il y a l'argent, il y a la rémunération, il y a le fait que ça permette d'entretenir des rapports sociaux, il y a le fait que ça oblige à avoir une activité physique ou voire une activité dite mentale. Et puis, ça, c'est souvent oublié. C'est pas simplement une activité, parce que sinon, on pourrait faire un club de sport, ça marcherait aussi. Il y aurait exactement les mêmes choses. Peut-être pas la rémunération, mais c'est organisé aussi. Et c'est organisé de manière un petit peu potentiellement conflictuelle ou segmentée. C'est-à-dire qu'il y a des tâches bien précises à faire, etc. Et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est l'organisation de la manière de travailler qui est importante, et la manière dont ça se branche, notamment sur l'argent et sur la vie quotidienne des gens, en dehors des lieux de travail et en dehors des lieux d'accueil. C'est toujours une interface, en fait.
C'est-à-dire, sur ce dernier point, en dehors des lieux de travail
Qu'est-ce qu'on peut faire du travail qu'on a fait une fois qu'on arrête de le faire et qu'on rentre chez soi? Enfin, quelque chose comme ça.
Manu?
Ouais, je voulais juste donner deux, trois exemples par rapport au travail qui est rémunéré ici. Il y a, par exemple, comme le disait Christophe, l'accueil, donc c'est sous forme de permanence. Ces permanences, c'est préparer le café, c'est accueillir les gens, c'est noter les noms dans le cahier de présence. Il y avait aussi, par exemple, ce qui s'est passé au Sonic Protest, où on a préparé des repas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il peut y avoir des interventions sur des déménagements, sur des nettoyages d'appartements, des choses comme ça. Enfin, il y a tout un panel de services qui peuvent être rendus par les usagers de la trame. À d'autres usagers, ça ressemble un peu à de la paire aidance, quoi, finalement. C'est même, je dirais même, ça rentre, ouais, dans le cadre de la paire aidance.
Florent, tu voulais réagir?
Oui, je fréquente la trame de manière plus régulière depuis seulement 3 mois. Ce que je peux constater par rapport au sujet, c'est que, en effet, l'argent, ici, il y a des gens qui en manquent, donc il est toujours le bienvenu. De pouvoir trouver quelques fonctions rémunérées. Mais je pense que, quel que soit le public, le travail et la valeur qu'on lui considère a les mêmes aspects ici qu'ailleurs, c'est-à-dire l'inscription sociale, la reconnaissance, l'encouragement à avoir des capacités à pouvoir exercer telle ou telle tâche. Tous ces éléments-là qui sont ici exceptionnellement, parce que c'est vraiment pas beaucoup de structures qui pourrait le mettre en place, qui sont mises en œuvre, voilà.
Pour reprendre ce que tu disais, Stéphane, sur la question de l'organisation du travail, ça m'a fait penser, quand tu as parlé de ça, une discussion que je suis en train d'éternellement retranscrire, qu'on avait eue avec Nasser, autour de pour entrer un petit peu dans le concret, de la spécificité du travail à la trame, peut-être, comme proposition de sujet de discussion. On avait déjà parlé de un petit peu des incohérences ou en tout cas des contradictions dans lesquelles on était pris, parce que quand on fait le choix donc de vouloir reconnaître du travail qui passe par tout un tas de choses que tu as rappelées, et ça rejoint ce que disait Florent sur l'inscription sociale, le fait de fabriquer des liens aussi entre les personnes et les lieux, il y a la question de la rémunération. Et le problème qui se posait, la discussion qu'on avait avec Nasser autour de cette rémunération, c'est la quantification de cette rémunération qui, dans la société dans laquelle on est pour l'instant, se base sur certains critères, comme des taux horaires, par exemple. Dans n'importe quel job classique, X heures de travail vaut pour X salaire, X heures en plus vaut normalement pour du salaire en plus, X heures en moins pour du salaire en moins. Et donc, du coup, c'est une des questions que je comptais t'adresser, peut-être Nasser, si tu veux préciser, parce qu'on est toujours pris dans cette espèce de contradiction entre le fait qu'à la trame, on se sert de l'outil d'une grille du travail, donc il y a des personnes qui s'inscrivent effectivement pour certaines tâches précises, et quand ces certaines tâches-là sont remplies, bah, du coup, ça déclenche la possibilité d'un paiement ajusté, quoi. Il y a une somme fixe. Et en même temps, on est pris dans la contradiction où on voit bien qu'il y a plein de personnes qui aident et participent du fonctionnement de la trame aux entours de ces tâches prédéfinies. Et du coup, je pense que c'est un petit peu une question sans fin, mais ça peut peut-être essayer de valoir le coup de la déplier. Je ne sais pas si Nasser, tu as envie de rebondir. Non.
En fait, tu as tout dit, et puis j'ai beaucoup aimé aussi l'explication de Florent sur le fait la reconnaissance d'un service fourni ici à la trame pour les trameurs, la reconnaissance d'un travail. Mais nous, on avait parlé aussi de comment mesurer la quantification de la valeur travail, en fait, en elle-même, quoi.
Est-ce que tu peux répéter, ouais,
la quantification de la valeur travail, comment on fait pour la mesurer, même si dans nos discussions on parlait que aussi les permanences et tu parlais des choses faites au-delà des permanences, c'était, je te répondais que c'était comme une impulsion à faire les choses, en fait, cette reconnaissance, bien sûr. On est payé pour un service qu'on a rendu aux autres. Il y a la cohésion, comme disait Florent, la reconnaissance, l'estime de soi. Et il y a les choses aussi, en fait, c'est un élan qu'on impulse à aider les autres, par exemple, bénévolement, au-delà de ses horaires, quoi.
Juste là, il y a quelque chose qui me paraît important et qu'on a vu en dehors de la trame, hein, bien en dehors, c'est que les travaux qui sont faits ici, c'est pas des travaux de production. Vous l'avez dit, c'est des travaux d'entraide. Et ça a été un piège parfait pour les soignants professionnels, puisque du coup, l'argument, c'est vous faites un travail qui est gratifiant en lui-même, donc vous n'avez pas besoin d'être payé. Alors l'avantage de tout ça, c'est que comparativement aux structures de production, c'est beaucoup plus souple ici. Parce que l'argent peut peut-être pas être compté, mais ce qui est produit peut pas non plus être compté. Donc ça permet une grande variété dans les tâches, etc. Mais c'est pas là où je voulais en venir.
Ah ouais, parce que je dis que quand on fait une permanence, on fournit un service quand même.
Ouais, mais c'était pas du tout une critique, justement. Il y a deux choses. Je crois qu'il y a deux problèmes qu'il faut bien distinguer. Il y a le problème de la rémunération par rapport au reste de la société. C'est-à-dire combien vaut mon travail à l'extérieur. Et je rappelle qu'il y a des gens qui gagnent 10 000 euros par heure sans rien faire. Donc, combien vaut mon travail une fois que je veux l'utiliser en sortant d'ici ? Et puis, il y a combien vaut mon travail au sein du collectif de travail dont je fais partie. Parce que c'est deux problèmes différents de se dire, j'ai gagné, par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui 100 euros. Donc, avec 100 euros dehors, je peux faire telle ou telle chose. Et puis, il y a l'autre problème qui est, j'ai gagné 100 euros et machin au bidule, il en a gagné 120. Dans le même collectif. Et c'est deux questions qui sont pas du tout les mêmes. Et la première, en fait, pose la question de savoir comment quelque chose comme la trame s'inscrit dans un tissu socio-économique qui lui est extérieur. Alors que la deuxième, c'est comment on fait pour le gérer en interne. Oui, c'est pas, à mon avis, c'est pas le même, tout à fait le même.
Et puis, comme tu dis, par rapport, il y a le travail qui est là, mais il y a aussi le, comment dire, par exemple, la consommation de la rémunération de ce travail à l'extérieur. Après, peut-être que la trame, on va faire notre propre monnaie après tout. Du troc, des choses, j'en sais rien. Hein.
C'est une des questions qui avait surgi dans la discussion, de se dire que pour l'instant, on avait fait le choix d'utiliser du vrai argent, c'est-à-dire l'argent qui a une certaine valeur aussi dans le monde autour, et pas d'utiliser une monnaie locale inventée qu'on aurait pu, de dire, voilà, on invente nos billets de Monopoly d'une certaine façon.
On n'est pas autosuffisant, donc on peut pas, faut qu'on consomme dehors.
Il me semble que Frédéric voulait rajouter quelque chose.
Parce que dans ce cas-là, il y a le sel.
Tu peux préciser sel ?
Non.
Service d'échange local, il hypothèse, Christophe.
Le sel, c'est le sel de Paris dont je pense que Frédéric parle. C'est un système de points, c'est-à-dire que tu interviens entre particuliers et tu obtiens des points quand tu interviens, par exemple, sur de l'informatique ou de l'électricité ou n'importe. Et en échange, tu redistribues ces points à d'autres personnes qui vont intervenir chez toi, qui ont une compétence que tu n'as pas, par exemple. C'est ça, okay. Le sel.
Ce n'est pas exact. Parce que, c'est pas une réciprocité fermée. C'est une réciprocité ouverte. Donc, on met des billes pour pouvoir en récupérer d'autres. Et avec ces autres, on peut les échanger contre d'autres.
Oui, mais... je voulais aussi revenir sur la notion de travail à la trame pour dire qu'on est en lien avec Paris 13, avec Fabien Duhaine et Pascal Molinier. Et on dépasse un peu la notion de chiffre avec eux, dans la mesure où ici, il y a toute une quantité de travail qui est dite inestimable, qu'on ne peut pas quantifier, qui est du domaine du bénévolat et qui a, à mon sens, beaucoup de valeur. Quand on va remonter, par exemple, faire un projet pour demander des financements, etc., je pense que cette notion qui dépasse les chiffres est hyper importante à la trame dans la justification de son existence, en fait. Enfin, pour moi, 50 euros par mois, c'est vrai, ça peut être vraiment très important pour les personnes qui n'ont rien. Mais pour la trame, cette quantité de travail qu'on n'arrive pas à estimer, c'est quelque chose qui est presque du glorieux.
Peut-être un tout petit truc sur l'économie du troc. Hein, on dit souvent qu'au départ, il y a eu du troc, une horloge contre un gant de toilette, et qu'après, on a inventé l'argent pour simplifier les échanges. En fait, c'est complètement faux. C'est-à-dire que dans les sociétés dites primitives, le troc, un collier contre un caillou, c'était pas économique. Ils avaient l'échange d'objets en tant que tel n'était pas économique, et la vie de ces sociétés primitives ou anciennes reposait sur ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire l'échange de la réciprocité et entre guillemets l'échange de services, mais au sens strict, qui produit en elle-même du bien-être. Le problème, du coup, on retombe, je crois, sur les discussions qu'on avait il y a un an avec Encore Heureux. Le problème, il est dans une société où il y a un besoin d'argent, un vrai besoin d'argent, tout en reconnaissant la valeur en termes de bien-être, de l'activité, du fait d'aider, du travail de soins, ou même le fait d'agir avec l'autre sans être payé. Ce qu'on fait, par exemple, quand on joue avec des enfants, voilà, on croise des enfants le soir, on joue avec eux, on n'est pas payé, enfin voilà, des choses comme ça. Tout en reconnaissant cette valeur-là, y a une inscription, il y a nécessité d'avoir de l'argent. Et la question, c'est de savoir comment on greffe l'obtention de cet argent sur quelque chose. Alors, c'est une activité ou ça peut être une alloc. Et c'est une question qui est importante aujourd'hui en particulier, parce que avant, il y avait des discours autour et des pratiques de personnes handicapées qui ne travaillaient pas. Je le dis exprès parce qu'on fait comme si le travail était vraiment... En fait, il y a des tas d'exemples, de témoignages de personnes qui choisissent, en s'appuyant sur ce qu'elles touchent en tant que personnes handicapées, pour ne pas travailler officiellement et faire autre chose. Grâce à leur AAH, elles ne travaillent pas et elles font autre chose. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont inactives, ça veut dire qu'elles ne font pas de travail rémunéré. Ce système-là qui consiste à dire « j'ai de l'argent d'un côté, ça me donne de la liberté, et de cette liberté-là, je fais ce que je veux, et je peux être utile aux autres », ça dépend d'un système social et d'un système d'allocation qui est vraisemblablement en train de se transformer, où la trame s'inscrit d'ailleurs, c'est-à-dire que l'espèce de prime qui est versée, en fait, c'est un essai pour penser à tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais il ne faut jamais perdre de vue que les droits qu'on obtient... Alors, il y a deux choses à voir, je crois. C'est un, quand ils sont systématiques, c'est un peu mieux parce que ça les rend plus solides. C'est pour ça qu'il y a les textes, etc. Et puis deux, il faut que le public soit au courant. Il faut que les autres gens soient au courant et il faut que les autres gens l'acceptent. On fait souvent comme si les droits, c'était un dû. On a le droit de toucher quelque chose parce qu'on est handicapé. Mais en fait, c'est devenu un dû. Et c'est devenu un dû parce que les autres gens, les personnes dites valides, entre guillemets, l'ont accepté ou ont compris que c'était utile. Ce qui pourrait se passer aujourd'hui, c'est justement que on comprenne de moins en moins pourquoi les personnes handicapées devraient toucher quelque chose. Et aussi que ça soit de moins en moins systématique et qu'on dise bah, « ça dépend des cas, c'est informel, etc. » Vous voyez ? Enfin, c'est les problèmes qui me paraissent clés.
On va accueillir DJ Karim. Je voulais juste faire une petite remarque qui nous fasse réfléchir pendant cette pause musicale. On ne va pas juste se détendre. C'est qu'il y a quelque chose à penser aussi entre... Donc, tu parlais, Manu, du travail inestimable, mais on a aussi discuté à la trame par rapport à la rémunération qu'on faisait. Et ça rebranche aussi avec ce que tu dis, Stéphane, sur la question du travail semi-gratuit dans les centres de santé, notamment dans les centres sociaux. Par exemple, aux États-Unis, des allocations sont conditionnées à la participation des gens dans les lieux qu'ils fréquentent. Ils sont un petit peu rémunérés pour ça aussi, mais s'ils veulent toucher l'intégralité de leurs allocations, il faut qu'ils participent. Et donc, il y a eu aussi... ça nous a été renvoyé. Alors, la frontière entre la question du travail inestimable et de la valorisation de ce travail inestimable, elle est très mince, avec cet envers qui est le travail presque gratuit des gens qui participent à une organisation collective. Mais avant de rebondir, je laisse le micro à DJ Karim qui va nous présenter le petit morceau.
Ouais, rebonjour à tout le monde. Nous allons, juste pour dire que pour les 50 euros par mois, heureusement pour ceux qui l'ont, parce que vraiment les 50 euros, ça sert à quelque chose.
Ouais, musique.
Et là maintenant, on va partir maintenant avec ça va être du zouk love. Alors le chanteur, alors c'est Jim Rama. Pour tous ceux qui connaissent Jim Rama, alors nous partons dans les îles. Alors, écoutez, messieurs, dames.
Est-ce qu'on reprend notre débat sur argent, travail, gratification et inestimable ? Florent, je crois que tu avais une remarque par rapport à ça, justement.
Alors, sur l'inestimabilité du travail à la trame. J'ai entendu plusieurs choses. Je pense que, oui, en effet, par rapport à la société... l'argent gagné n'est pas grand-chose, mais comme ici, beaucoup de gens n'ont rien, c'est déjà ça. Il y a une partie, en effet, qui n'est pas quantifiable. Je trouve que c'est pas si grave d'un côté comme de l'autre, parce que les gens ici sont concernés par le travail qui est établi, par les problématiques qui sont soulevées, et donc il y a une envie de participer et d'avancer aussi là-dedans, ce qui donne une certaine qualité. Et quant à aussi savoir s'il y en a un qui a gagné un peu plus que l'autre, ou je sais pas, donc ça, c'est, j'imagine que la trame, elle a un budget qu'elle essaye de partager équitablement. Les situations de chacun sont différentes. Et moi, ça ne me regarde pas. C'est
peut-être que je préciserai la
confiance ouais. Par rapport à ça. C'est comme ça. Voilà.
Sur le partage dont tu parles, en fait, ça a été tranché il y a un an, parce qu'au départ, quand on tâtonnait sur le paiement et l'argent, la circulation de l'argent à la trame, on payait les gens à la tâche et on fournissait du travail. Les gens se déclaraient « moi, je veux bien faire ». Donc, il y avait effectivement des inégalités. Ça a posé beaucoup de questions à un moment, et même d'animosité entre les uns et les autres, parce que on ne comprenait pas pourquoi un tel était payé beaucoup et puis tel autre ne touchait pas forcément d'argent ce mois-ci. Donc c'est comme ça qu'on a mis en place cette histoire de forfait de 50 euros. Et donc tout le monde est payé, il me semble, dès lors qu'il s'engage dans la trame. On fait en sorte qu'il soit payé 50 euros par mois. Il me semble que c'est à peu près ça c'est ça le principe. Voilà. Donc tout le monde est payé pareil en fait ici.
Après pour complexifier, pour dire vraiment là où on en est et que la conversation soit aussi une occasion de réflexion, c'est il y a quand même cette séparation qui est faite entre la permanence, enfin ou une mission proposée, et la réunion du travail, la réunion des participants. Et par exemple, ça arrive que des personnes qui ne viennent pas à la réunion des participants, qui fait partie du contrat de travail entre guillemets entre la trame et les trameurs, du coup les personnes qui ne participent pas à cet aspect là du coup sont pas payées 50 euros mais 30. Donc du coup, il y a ces, on a essayé de lisser comme ça le plus possible, mais du coup quand même, il y a après toute la question, il y a forcément des critères liés à l'argent. La question qu'on a notamment débattue avec Nasser la dernière fois, c'était la question de à quel point est-ce qu'on se donne des critères plus ou moins intelligents ou avec lesquels on est le plus ou moins en accord, quoi. La participation à la réunion des participants, on la considérait comme nécessaire parce que on se disait que c'était pas rien, ça allait pas de soi de proposer toutes ces missions à tellement de personnes, que ne serait-ce que tenir une permanence et tenir l'accueil, ça peut poser plein de questions, et qu'on partait du principe qu'on ne pouvait pas mettre les gens dans des positions, du coup, parfois de responsabilité, sans leur donner des espaces aussi pour pouvoir penser le travail, quoi. Un peu sur le modèle, en fait, aussi des travailleurs de la trame salariée que nous sommes, Christophe, Lucie, ici présent, Valérie aussi. Nous, quand on fait notre réunion d'équipe le jeudi matin, la trame est fermée le jeudi matin et c'est fermé parce qu'on travaille et on travaille à réfléchir à comment on travaille.
Je voudrais juste revenir 30 secondes sur la notion de travail inestimable avec une petite remarque, c'est que au même titre qu'on peut avoir des compétences ou de la culture ou un bagage ou de l'expérience, c'est inestimable, ça ne se quantifie pas, ça ne se monétise pas, et pourtant c'est une richesse. C'est juste ça que je voulais rajouter pour dire un petit truc de plus sur le boulot inestimable, quoi.
Parce que je repars du travail inestimable. Je connaissais pas cette idée de Pascal Molinier. Ça me surprend un peu parce que qu'il y ait des activités inestimables, oui. Après, quand on parle de travail inestimable, du coup, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un travail inestimable plutôt qu'une activité inestimable ?
Ouais.
Dans le cadre ici, ça se comprend, mais Je reprends, je suis très enfant aujourd'hui. Quelqu'un qui va coucher son enfant le soir, c'est une activité inestimable. Ouais, le bien-être de l'enfant qui est produit par ce biais-là, il est inquantifiable. Mais à partir du moment où c'est un parent qui le fait chez lui à domicile, on ne va pas considérer que c'est un travail. On va considérer effectivement que c'est une activité dite essentielle. On a utilisé le terme essentiel d'ailleurs pendant les deux dernières années. C'est une activité essentielle, mais je trouve qu'il y a un basculement intéressant hein, d'ailleurs. Quand on parle du coup de travail inestimable, est-ce qu'on peut dire, c'est une vraie question, est-ce qu'on peut dire qu'un père ou une mère d'enfant fait un travail inestimable ?
Il me semble que il y a un emprunt, alors je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il y a un fort emprunt là, alors c'est pas sur l'inestimable, mais sur le fait de qualifier ces activités qui sont pas normalement rémunérées, de les qualifier de travail, il y a un fort emprunt aux études féministes américaines qui valorisaient toutes les activités pour essayer de retrouver une équité. Voilà, je le dis comme ça, moi je suis pas un grand spécialiste, mais je crois vraiment que ça vient de là. Et après, le travail inestimable, c'est... Alors, je ne sais pas si on parle de travail aussi, mais inestimable, c'était une notion qu'elle empruntait à Houry, qui disait qu'un sourire, quand on est évalué dans les lieux de soins et tout ça, parce qu'il y a des contrôles de gestion, il y a des contrôles de notre activité, et donc des contrôleurs qui viennent, on va pas mettre dans nos rapports d'activité un sourire, un geste amical ou quelque chose comme ça. Et c'est de là que vient... inestimable dans l'interstice aussi.
Quand bien même un sourire peut tout changer dans l'accueil, par exemple.
C'est ça.
Moi, c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais à propos de l'évaluation du travail, y compris domestique. Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais j'avais beaucoup écouté à un moment donné un spécialiste qui s'appelle Bernard Friot. Et il rappelle, me semble-t-il, assez justement que les caisses d'allocation familiale qui donc délivrent une certaine quantité d'argent à des personnes qui ont eu des enfants se sont basées sur une évaluation sont parties du principe que c'était du travail. Et donc, du coup, la façon de calculer les allocations versées aux parents a été calculée sur la base de salaire, en fait. Et du coup, c'était un calcul un petit peu, imaginaire, fictif, quoi. Mais ça dit quelque chose d'une certaine forme de reconnaissance aussi, de considérer que dans une société qui fonctionne, il faut que les parents aient les moyens de pouvoir éduquer leurs enfants pour que la société fonctionne, quoi. J'avais cru en comprendre quelque chose comme ça.
Alors juste, parce que ça permet de faire le lien avec le handicap aussi, c'est possible que les caisses d'allocation familiale aient dit ça. Mais à côté de ça, il y avait un principe nataliste au sujet de la population française. Ça remonte aux années 30-40, hein, de simplement développer la puissance du pays. Je dis ça parce que on voit là que dans les politiques sociales et les politiques sanitaires, il est aussi question de puissance sociale. Donc il est possible qu'ils aient calculé les allocations familiales en parlant d'un travail ou d'une activité. Mais l'idée qu'il y avait derrière, c'est plus il y a d'enfants, plus il y a de futurs travailleurs, salariés ou tout ce que vous voulez. Ça a été lancé dans les années 50-60. Je dis ça parce qu'au sujet du handicap, quand on verse donc 900 euros aux personnes handicapées, c'est pas une logique de rémunération de l'activité. Et c'est typiquement calculé sur le seuil de pauvreté. En fait, l'AAH est calculée pour être à 10 ou 20 euros en dessous du seuil de pauvreté, calculé au seuil bas. Hein. Donc voilà, c'était juste sur les allocs. Enfin voilà, ça n'a pas d'importance plus que ça.
Je voulais revenir un peu sur ce que tu disais en introduction à propos de la réédition des archives de Tosquelles, parce que je crois que tout le monde ne sait pas qui est ce psychiatre, pourquoi justement en ce moment il y a cette réédition de ces archives, si tu veux préciser toi Stéphane.
C'est un psychiatre catalan à l'origine, communiste, venu en France à la suite de l'installation de Franco en Allemagne après la guerre d'Espagne, et qui est à l'origine du système psychiatrique tel qu'on le connaît aujourd'hui en France, c'est-à-dire la psychiatrie de secteur. L'intérêt qu'il a par rapport à ce qu'on est en train de raconter ici, c'est qu'il a conçu la thérapeutique, y compris les diagnostics d'ailleurs, autour de la notion d'activité en institution. C'est-à-dire que c'est les activités que les gens font en groupe qui permettent à la fois de les soigner et de savoir ce qu'ils ont. Le point important, et qui n'est pas soulevé ici, mais qui quand même il est sous-jacent, c'est que ce que j'ai l'air de dire là, ça correspond tout à fait à la trame. Pas tout à fait, parce que chez Toscaïès, il y a un background, un arrière-plan psychanalytique permanent, avec voilà. Et on en parlait tout à l'heure. C'est la manière de lier ce qui est thérapeutique et ce qui est, on va dire, social. Ou chez Toscaïès, c'est thérapeutique. C'est clairement thérapeutique. Il s'agit de soigner les gens. Est-ce que c'est le cas ici à la trame? Oui, évidemment, mais pas uniquement. Et il faudrait peut-être en parler.
Hein. Mais c'est pas vrai.
C'est pas institutionnel. Toscaïès, c'est la psychothérapie institutionnelle. C'est pas. Peut-être qu'il y a eu des analystes chez lui, mais c'est la psychothérapie institutionnelle. Et c'est. La psychothérapie, c'est pas une analyse. Hein. Moi, j'étais en psychothérapie, j'ai jamais été en analyse. Pourtant, j'ai connu des analystes. Hein.
Mais c'est vrai que dans la psychothérapie institutionnelle, on dit qu'on marche sur deux jambes, la jambe freudienne et la jambe marxiste. Donc, il y a quand même quelque chose d'un apport de la psychanalyse dans la psychothérapie institutionnelle. Est-ce que tu veux porter une petite conclusion à cette heure qu'on vient de passer ensemble avant qu'on diffuse un morceau qui nous a été envoyé par Nébuleuse Mirobolante que je vous présenterai après?
Je vais donner une référence d'un bouquin de Toscaïès qui est dans mon sac là et que tu m'as prêté il y a longtemps. C'est Travail thérapeutique et psychiatrie. C'est un petit livre très très clair, très très bien et qui est pas trop cher. Donc voilà. Et merci à toutes et tous.
Du coup, je fais l'annonce. C'est donc un rap qu'elle nous a envoyé pour l'émission où elle critique les codes virilistes du rap. Et donc, elle a transformé le point de vue. C'est donc une transformation du rap masculin, viril, en rap féminin. Merci à Nébuleuse pour cet envoi.
Oui, merci.
Merci beaucoup.
Je balance le son.
La culotte, ouais, d'une salope, mec. Tu t'en gardes comme si fiongre, tu l'agites, ouais. Tu sais, tu te la bite comme des yeux de chic zozo. Parce que je suis la femme qui te regarde de travers. J'ose te mater dans la rue, toi et ton petit cul, si on se parlait cru, sans fausse pudeur, sans candeur, parce que je suis la femme qui assume sa terreur, ouais. Je suis la femme qui te regarde de travers, qui te mate, qui t'attribue une note, et je te fais culotte de 1 à 10, toi, t'es mignon, je t'attribue une note, t'es mignon et t'es valide, t'es pas validable, ou t'es pas valable, ouais, je te regarde, et puis toi, avec tes crocs, t'es moche, t'es pas très beau, et puis t'es pas très lisse, si je te regarde, t'es un peu gros, ouais, mec. Mais l'autre, il est mignon, et je regarde son fion, je mouille, et j'ai envie de tremper ses petites couilles dans un bain d'acide pour créer les féminicides, ouais. Parce que mec, t'es mignon, montre-moi ton fion, je suis la femme qui reprend les droits à l'espace public. C'est à nous de faire trembler les mâles. C'est à nous de faire trembler le mal chimique. C'est à nous de faire trembler le mal chimique, reprendre l'espace public et d'abolir les camisoles psychiatriques normatives. Moi, je suis la femme sur la dérive, interstellaire sur la rive. Je pisse de mon sang vermeil, une grosse chatte et des seringues ensanglantées. Et j'assume ma liberté parce que je suis la femme qui te regarde de travers, qui te regarde à l'envers. Mec, à bout la moula, donne-moi une putain de pauvre, donne-moi la boula, donne-moi. Et montre-moi, c'est la moi l'amour là, maintenant. Je te regarderai, je m'en bats les reins de ton visage qui m'aime. Moi, je te regarderai, je t'enverrai pas des poèmes, ouais. Je suis la femme qui te regarde. Putain, mec, t'es mignon. Montre-moi ton sion, un bout de ton pognon, ouais. T'es mignon. T'es mignon comme un rond. J'ai envie de te bouffer le cou, te croquer. Et tu seras plus petit que moi, ouais. Parce que je suis la femme, la flamme qui se désarme pas, qui a des larmes de sang, ouais. C'est ma chatte qui saigne. vermeil te baigne dans son cri zalide. C'est un cri salé, c'est un cri putride. Le cri des femmes qui ont été violées dans les féminicides, tuées à l'acide. Je suis la femme qui reprend l'espace public et qui te regarde. Mec, c'est moi qui ai le ventre, c'est moi qui ai l'antre. C'est moi qui décide, c'est moi qui suis puissante. C'est moi qui suis puissante, transcendante. C'est moi qui ai la fibre, pas la fibre SFR, la fibre de l'éther, ouais. Je suis la femme interstellaire, je te regarde, mec. Et je te dis, putain, il est mignon. À bout de la moulette, viens me sucer la chatte, et la queue pour ça, ouais. Tu vas te prostituer avec moi. Parce que je te regarde, putain, que t'es bonne, t'es canon, t'es une bombe. Donne-moi ton pénis, bombe le torse, ouais. J'ai envie de sucer tes poils, et te mettre à poil, te violer au GHB, ouais. Et tu perdras ta liberté qui rapporte plein, on ne prêtera teinte. Parce que c'est le mec, et c'est toi qui décide pas, c'est moi qui décide et qui plonge à l'acide. C'est moi qui décide et qui...
Tous les troisièmes lundis, de chaque mois, de 18h à 19h.
Bruit de couloir !
C'est en fréquence pleine, pluriel.
DJ, avant que tu balances ton sang, je remercie à tous et à toutes de cette participation de la radio, et ainsi qu'à Stéphane. Merci quand même Stéphane. Et voilà, bah maintenant DJ, tu peux balancer le son.
Vas-y, lève le son. Vas-y. Lève un peu. Christophe, lève le son. Oh là là, moi j'aime pas.
Ton futur, je peine, je le jure, à m'éloigner de toi plus. Bon, des armures, ta compagnie d'injures, je changerai d'allure, à rester avec. Je veux être la guinée d'un démontrer mes bijoux. Je masserai, piercing de la star et tout métal. Je casquerai. De passer pour un sentimental, ouais. Plutôt que d'avoir mal, et je sais que je peux tout changer. Pour le pilote, on fait écrire. Je suis bon à aimer, ouais. Sans pas aimer, je suis bon à leurrer. Pour le semi-pour pour toi aider. C'est que le vent guérira les mouvements. Les mots qui masquent l'ombre de ton jardin secret. Je sais que je peux tout changer. Mon vivant à tes côtés. J'ai le bon à aimer. Je te regarderai dans la survie dont tu as été. Je t'ai le bon à aimer, oh, mais sans compagnie.